Nouvelle édition des Voix de l'Alma pour le si joli mois d'avril. Avec dans les studios de CFM aujourd'hui, Daniel Deloche, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous honorer de votre présence, c'est assez rare pour le souligner.
Est-ce une remarque perfide ?
Non, pas du tout, je suis vraiment ravi de vous voir pour cette émission. Bonjour Philippe Bernadou.
Bonjour.
Lui fidèle au poste.
Oui, mais... Hein,
si je distribuais des bons points pour assiduité, je pense qu'il aurait quelques images déjà.
Il faut dire que les rangs de l'Alma étaient un peu clairsemés aujourd'hui, donc on appelait des renforts, n'est-ce pas ?
Et Hugues Dedy est arrivé en renfort alors qu'il n'était pas prévu, hein, parce que je vois passer des mails de temps en temps. Il dit non, je suis pas prêt, ma chronique est pas prête. Est-ce qu'on peut pas repousser un petit peu cette émission ?
Et tout compte fait, je viens.
Merci à tous d'être là. L'auteur du mois, c'est vous qui nous le présentez, Philippe Bernadou. Il s'agit d'Eduardo Mendoza.
Oui, à moins qu'on dise les auteurs du mois au pluriel, deux pour le prix d'un, puisque nous allons parler des deux visages d'Eduardo Mendoza. Parce qu'en effet, il y a deux Mendoza. Celui qui écrit des romans, disons, sérieux, classiques, et celui qui écrit des romans fantaisistes. Et les deux Mendoza cohabitent dans le corps d'un homme né en 1943 à Barcelone, il y a 70 ans donc. Et même si après des études de droit, il a beaucoup vécu à l'étranger, à New York en particulier, où il a été traducteur au sein de l'ONU, Barcelone reste le lieu unique de tous ses romans, dont 14 ont été traduits en français. Traduits depuis l'espagnol, car il est d'une génération où la langue considérée littéraire était plus l'espagnol que le catalan. Il est en poste à New York quand il publie en 1975 « La vérité sur l'affaire Savolta », dont la censure franquiste qui commençait à faiblir ne modifiera que le titre. Ça devait s'appeler au départ « Les soldats de Catalogne ». Quelques mois après, Franco meurt, sans qu'on puisse y voir une relation de cause à effet. Et Mendoza devient le romancier emblématique de la transition démocratique. Dans la veine sérieuse, je vous conseille la lecture de ce qui est considéré comme son chef-d'œuvre, « La ville des prodiges ». C'est un gros roman qui, à travers la biographie d'un affairiste entre le 19e et le 20e siècle, entre deux foires universelles et qu'il y a eu à Barcelone, ce roman dépeint parfaitement le terreau sur lequel a pu germer le franquisme. Et on sait le prix que l'Espagne paie encore ses dérives immobilières. Si je citerai tout de même Bataille de chasse, son avant-dernier roman, parce qu'il a été publié sous pseudonyme, ce qui nous fait un Mendoza de plus, et pour lequel il a eu le prix Planeta, le Goncourt espagnol, ce qui peut rappeler chez nous l'affaire Romain Gary et Émile Ajar. Venons-en aux œuvres plus amusantes, mais tout aussi intéressantes. Pour parler de la Barcelone et des Jeux Olympiques, il a imaginé y envoyer un extraterrestre réincarné en Madonna. Ça s'appelle « Sans nouvelles de Gerb ». Mendoza commet aussi un pastiche du Da Vinci Code, « Les aventures miraculeuses de Pomponius Flatus ». Le nom du héros dit bien sa particularité physique. Disons qu'on le sent venir de loin. Et puis il y a son hilarante tétralogie dont le héros narrateur, qui n'a pas de nom, est une parodie de détective qu'on extrait régulièrement de son asile psychiatrique pour mener des enquêtes qu'il résout avec une logique qui, on s'en doute, n'a rien de cartésienne. Révélation en France en 1982, le mystère de la crypte ensorcelée est suivi 3 ans plus tard du labyrinthe aux olives. Et il a attendu 17 ans pour lui donner une suite avec l'artiste des dames où le narrateur est définitivement rendu à la vie civile parce que l'asile où il vivait a été vendu par son directeur à un promoteur. On voit que les obsessions de Mendoza ne faiblissent pas. Et donc, voici que vient de paraître le 4e volet, La Grande Embrouille, qui nous plonge au cœur de cette Espagne contemporaine qui a tant de mal avec l'Europe, à moins que ce ne soit le contraire. C'est terriblement drôle et terriblement juste. Alors, si votre route n'a jamais croisé celle d'Eduardo Mendoza, courez-y vite, vous ne le regretterez pas. Tout Eduardo Mendoza est publié en grand format aux éditions du Seuil et en collection de poche en point Seuil.
Merci Philippe Bernadou. Notre premier coup de cœur, c'est vous qui nous le présentez, Hugues Dedy.
Oui, absolument. C'est un bouquin qui s'appelle « Bacha Bosch », dans lequel on découvre qu'il n'est pas simple de monter une équipe d'aviron aujourd'hui dans Kaboul, bouleversée par l'insécurité et la précaire stabilité politique. Mais Farouk et ses camarades d'une quinzaine d'années s'obstinent à s'entraîner pour créer la première équipe nationale tous animés d'une union de corps et d'esprit. Farouk est le barreur, il dirige l'embarcation, donne la cadence, motive la troupe, et il réussit à négocier le don d'une embarcation de compétition livrée par l'armée française. Avec ce nouveau bateau, l'équipe progresse rapidement et elle a toutes les chances d'être retenue aux élections des Jeux Olympiques. Mais un jour, alors que l'équipe sort du vestiaire pour rejoindre le barreur, la pierre sur laquelle Farouk a l'habitude de l'attendre est vide. On cherche, on interroge, Farouk est parti chez lui en courant. Sans même prendre le temps d'ôter ses chaussures, Farouk, hors d'haleine, se précipite dans la salle de bain. Devant le miroir, il baisse son pantalon et découvre avec effroi le sang qui macule son entrecuisse, car Farouk est une fille, son vrai nom est Farouxad. Les parents de Farouxad n'ont eu que des enfants-filles, et comme le permet la tradition afghane, ils ont fait de la Benjamine une bacha-boche. Farouxad se souvient. Elle ne voulait pas devenir une bacha-boche. Elle refusait de se travestir en garçon avec autant de véhémence qu'elle refuse aujourd'hui d'être reléguée au rang de fille. Farouxad est livide devant le miroir. Tout est fini. Elle doit renoncer à la liberté dont jouissent les garçons. Le silence s'insinue avec la froideur d'une prison. Ce roman à découvrir à partir de la 4e-3e pousse cette horrible tradition afghane qui consiste à travestir les petites filles dans ses ultimes retranchements en montrant toutes les difficultés de préserver son identité et les ambiguïtés également qu'elle peut susciter. Et le récit sportif sert de support comment Farouxad et Farouk vont réussir à qualifier l'équipe d'aviron dans un monde aussi misogyne. Ça s'appelle donc Bacha-boche, c'est écrit par Charlotte Herly et c'est disponible aux éditions Actes Sud Junior.
Merci Hugues Deldy. Daniel Deloche.
C'est... Une petite parenthèse,
oui,
les hasards de l'édition font que paraît en grand format un témoignage sur le même sujet dont vient de nous parler Hugues qui s'appelle « Je suis une bacha-poche » de Hukmina Manouri et qui là est le témoignage d'une dame qui a refusé de réendosser des habits féminins et qui a combattu auprès des Moujahidines, qui a 45 ans maintenant et qui est élu député de son district.
Géronimo a mal au dos, c'est votre coup de cœur,
et
Daniel.
Oui. Eh bien, c'est une histoire pas très rigolote non plus. C'est Simon qui est de retour dans la maison où il est né, où il a rendez-vous avec son père qu'il n'a pas vu mourir. Autour du cercueil, il y a son frère et sa sœur. Et leurs reproches. Il y a les voisins qu'il ne connaît pas. Et surtout ses propres questionnements. Car c'est le moment de se réconcilier avec celui qui la fuit pour ne pas le détester. Comment démêler les chevaux complexes de la relation au père, à sa loi, à ses valeurs qu'il ne partageait pas. Ce père qui l'a trahi en ne lui donnant pas sa confiance. Ce père qui l'a lui abandonné pour un long vagabondage. De traître ou de proscrit. À moins finalement que les frustrations infligées lui aient permis de se construire. Par exemple, ce livre, le premier qu'on lui avait offert et que son père lui avait immédiatement confisqué, n'avait-il pas décidé un jour de l'écrire ? Maintenant, toute rancœur est apaisée. Et c'est avec tendresse qu'il va continuer sa vie d'homme et de père à son tour. Je vous lis une phrase, Justine. Que je m'envole enfin et plane très au-dessus de ces prairies perpétuelles qui ont saoulé mes jeunes années, réduit mon idéal d'espace à ce carré de terre comme une carte postale collée à vie derrière mon front et qui ont décuplé en moi, au fil des ans, une mélancolie de vieille élégiaque. Guy Goffet a publié plus d'une cinquantaine d'ouvrages, de la poésie, des romans, des nouvelles. Il a reçu en 2010 le prix Goncourt de la poésie pour l'ensemble de son œuvre. Dans ce livre d'autofiction, il nous invite à partager son voyage parmi les paysages universels, finalement, de l'introspection.
Ça s'appelle Géronimo à mal au dos de
Guy Goffet.
Guy Goffet.
C'est publié chez Gallimard.
Merci Daniel. Hugues Dedy, un nouveau coup de cœur s'il vous plaît.
Énigme Marcheur, donc ce coup-ci un roman adulte très particulier. Et pour l'évoquer, il faut immédiatement présenter son écriture très particulière qui est tout autant sa force que sa faiblesse. En effet, ce livre est écrit avec une écriture phonétique qui utilise des mots-valises et une nouvelle forme de césure qui oblige le lecteur à déchiffrer la lecture et à recomposer le sens en permanence. Donc autant dire qu'il faut beaucoup de patience pour appréhender cette lecture qui est forcément extrêmement lente. Alors, je reviendrai sur l'écriture plus tard. Pour l'instant, voyons voir l'histoire. L'histoire se déroule dans un futur extrêmement lointain, donc c'est un livre d'anticipation, en Angleterre, des siècles après une explosion nucléaire qui a tout ravagé, et qui a même ravagé la langue. Dans ce monde post-apocalyptique, la société est régie par le grand Ram, qui professe sa bonne parole et asservit la population grâce à des spectacles de marionnettes. Il n'y a que quelques castes bien cloisonnées dans la société, définies par leur profession. On ne peut se déplacer qu'en groupe au gré du travail à accomplir, entouré de garde-corps parce que le pays est infesté de chiens sauvages extrêmement dangereux. C'est une société donc orale, sauf le narrateur qui a appris à écrire, qui fonctionne sur un schéma de légende, de prémonition et de croyance, un vrai retour à l'âge de fer. Et donc le langage est extrêmement nouveau. Enig, le narrateur, vient d'avoir 12 ans. Il est un peu différent du reste des hommes parce qu'il se pose des questions, aussi parce qu'il sait écrire, ou du moins, enfin, il sait comment noter ses pensées. Et son instinct le fait sortir de la route lorsqu'il sauve un jeune garçon qui semble avoir un autre savoir. C'est là qu'il commence à écrire son histoire. Et donc son histoire, on le découvre avec ses mots, avec son écriture si particulière. Et tout le génie tient justement dans la lecture de ce texte si particulier, dans cette espèce de lenteur que confère l'écriture, lenteur qui va recréer un temps et un autre espace. Elle est en quelque sorte une espèce de mise en scène de son propre éclatement et en même temps le moyen de recomposer ce dont elle est issue, c'est-à-dire l'humanité, l'histoire. Et le génie ici tient à entraîner le lecteur dans une espèce d'abondance de signes qui forment un ailleurs saisissant. C'est à la fois la force et la faiblesse du livre. C'est un livre donc tout à fait incroyable, à condition qu'on arrive à pénétrer dans son système. Ça s'appelle Énigme Marcheur, c'est écrit par Aubin Russell, c'est traduit par Nicolas Richard, c'est un travail de traduction absolument exceptionnel, et le livre est sublime, il a un système de trois jaquettes absolument merveilleuses, qui sont le travail d'un éditeur absolument exceptionnel qui s'appelle Monsieur Toussaint Louverture.
Merci. Hugues Dedy, autre coup de cœur dans les voix de l'Alma sur CFM Radio avec le flûtiste invisible, Daniel Deloche.
Oui, mon petit Montalbanais, Philippe Labro. Dans ce livre, il a réuni trois rencontres avec des gens qui lui ont raconté leurs histoires. La première, c'est un vieux bonhomme qui l'aborde parce qu'il siffle, ce que je ne ferai pas, « Bye bye Blackbird », un standard de jazz des années 30, et qui lui dit « Moi, je suis tombé amoureux d'une fille qui se faisait appeler Blackbird. J'étais jeune adolescent sur le paquebot qui m'amenait en Amérique et elle m'a entraîné dans une relation frustrante qui a marqué toute ma vie amoureuse sous le sceau de l'échec. Le second, c'est un inconnu qui vient lui dire « Toi, je t'ai tenu dans ma ligne de mire pendant la guerre d'Algérie et ce jour-là, je n'ai pas eu envie de tirer. » Ça fait froid dans le dos, n'est-ce pas, même a posteriori. La troisième, c'est l'histoire terrible de son voisin, juif et hongrois, et qui a survécu à la fois au nazisme et au communisme grâce au hasard. Car le hasard, avec un grand H, c'est le point commun de ces trois histoires, ce hasard qui fait basculer des existences. De quoi se demander pour Philippe Labraud s'il n'y aurait pas derrière tout ça un dieu qui jouerait de la flûte. D'où ce beau titre, Le flûtiste invisible, publié chez Gallimard.
Merci Daniel. Philippe Bernadou, quel est votre coup de cœur ?
De Genichiro Takahashi, Sayonara Gangster. Alors, remercions notre beau métier où des lecteurs curieux nous font découvrir de tels livres inattendus. Et demandons-nous, au passage, comment on a pu attendre 30 ans pour traduire cet ovni, déjanté, drôle, poignant, irracontable. Et encore, est-ce traduit depuis une traduction américaine ? Mais bon, on peut comprendre vu la complexité du livre. Essayons de trouver tout de même un fil directeur. Nous sommes dans un monde qui n'existe pas, ou pas encore, ou pas tout à fait. Le narrateur, Sayonara Gangster, est amoureux de la belle Livre de chansons. Il faut dire qu'en ce temps-là, les gens ont le nom qu'ils se donnent entre eux. Il enseigne la poésie dans une école de poésie. Donc, je cite, « Penser à des trucs qui ne mènent nulle part, c'est ça ton cours. » Livre de chansons a un chat qui s'appelle Henri IV et qui fonctionne au lait vodka. Le poète latin Virgile s'inscrit au cours de poésie. Seulement voilà, à la suite d'une beuverie, il a été réincarné en réfrigérateur. Bon, au moins il fournit la bière. La presse a parlé de Boris Vian au sujet de Genichiro Takahashi. Et c'est vrai qu'il y a dans ce livre de l'écume des jours, 30 ans après, dans ce monde où plus rien n'a vraiment de contour précis, où la vie et la mort se chevauchent, où les gens qui vont mourir rétrécissent petit à petit. Il y a aussi une grande familiarité avec le surréalisme. Je pense que l'auteur doit être aussi professeur de poésie et aussi avec Bukowski et la Beat Generation. Ce qui fait la force de ce texte, par-delà son humour ravageur, c'est la mélancolie qui s'en dégage. Car si rien n'est vraiment vrai, qu'est-ce que cela signifie de vivre ? Mais je m'aperçois que je n'ai pas parlé des gangsters. Méfiez-vous, ils sont derrière la porte. Sayonara Gangutashi. Sayonara Gangster de Genichiro Takahashi est publié aux éditions Books.
C'est Les Voix de l'Alma, l'émission des libraires montalbanais. Ils se réunissent une fois par mois dans nos studios, au 5 boulevard Garrison à Montauban, pour vous présenter leurs idées de lecture. Alors pour ce mois d'avril, si vous avez raté tout ou partie de ce que des idées de lecture qu'ils vous donnent, vous allez sur le site cfmradio.fr, l'émission est en podcast, et sinon vous allez sur le site des libraires directement, librairiemontauban.fr. Là, vous y retrouverez les références des ouvrages présentés. À chaque mi-temps de cette émission, avant de passer aux actualités des libraires, il y a la traditionnelle lecture, et c'est une lecture à deux voix pour la première fois dans cette émission, Philippe et Daniel.
Oui, et pour illustrer le coup de cœur que nous avons eu sur Sayonara Gangster, pour donner l'idée de la structure du livre, voici un extrait. Il tombait des cordes. Au-dessus de l'endroit où nous laissions les ordures pour le ramassage, juste sous le panneau « Incombustible le mardi », avait pris place un seau en polyéthylène, une jeune femme et un autre seau en polyéthylène. Comme les seaux, la jeune femme était trempée. Je lui tendis mon parapluie. Le règlement interdit de jeter les gens ici. La jeune femme, vêtue d'un mince t-shirt et de jeans, tremblait de froid. Elle me regardait avec suspicion.
« Miaou !» miaula-t-elle brusquement.
« Ouf, ouf !» aboyai-je en retour.
« Je me suis spécialisée en littérature française à l'université. Proust. »«
Je me suis spécialisée en littérature russe à l'université. Dostoïevski. » »«
Je mens. J'ai abandonné mes études au lycée. Je dansais dans un cabaret.
Oh, »« Moi aussi, je bluffe. » J'ai abandonné mes études au collège et je glandais pendant que ma copine était hôtesse dans un cabaret.
Je mens. J'ai étudié la tauromachie à la Sorbonne.
Vraiment, c'est amusant, parce que je me suis inscrit au département des catcheurs professionnels à l'université Columbia.
Mon père est détective. Ma mère, médiatrice pour les affaires familiales au tribunal de grande instance. Et mon frère aîné fait son service dans la marine.
Aïe, alors il faudra que je fasse gaffe, parce que mon père est un voleur à la tire, ma mère une alcoolique et mon frère aîné un escroc.
Mon grand-père est esquimau, et ma grand-mère, papou.
Vraiment, mon grand-père est pygmée, on m'a dit que ma grand-mère n'était même pas un être humain.
J'ai 8 enfants.
Ah, je ne peux pas rivaliser avec toi. J'ai 3 enfants, 3 petits-enfants et un arrière-petit-fils. Ça fait 7.
Tu dois savoir que sexuellement, je suis une lesbienne frigide. C'est comme ça depuis que ma mère a pris notre Saint-Bernard pour amant.
Pareil pour moi. Je suis un homosexuel impuissant depuis que j'ai cassé mon taille-crayon à l'école élémentaire.
La jeune femme se leva en souriant. Je n'ai qu'un sein.
Mon cou s'allonge la nuit. Mais je refuse de me laisser embêter par ça. Je pense que ce serait mieux que tu ne te laisses pas embêter par ça non plus.
En fait, je meurs de faim. Je n'ai rien mangé depuis une éternité. Mon Dieu, j'ai le tournis.
Je hissais la jeune femme, presque morte de faim sur mon dos. Elle tenait un panier. Qui a-t-il là-dedans ?
Henri IV.
Voilà comment nous nous sommes rencontrés, livre de chansons et moi.
Effectivement.
Ça surprend. Hein.
Ça surprend. c'est tiré de...
C'est tiré de Sayonara Gangster.
D'accord.
De Genichiro Takahashi, toujours.
Merci pour cette belle lecture à deux voix, un peu étonnante. Je pense qu'il faudrait la réécouter la nuit à 2h du matin sur France Culture, hein, quelque chose comme ça. et ben voilà, c'est l'heure maintenant des actualités des libraires montalbanais. Ça commence le 3 avril, Daniel.
Je crois que c'est le 2.
Alors ?
Non, t'as marqué.
Non.
Alors,
pardon.
C'est bien le 3 ?
Oui.
C'est ça.
Oui.
Alors donc, ça commence le 3 avril, Daniel.
Eh bien oui. Donc le 3 avril, nous participons aux animations proposées par Confluence autour d'Albert Camus. Et ce sera à la Mémo, à 18h30. Il y aura une lecture de Maurice Petit sur le premier homme.
Voilà, puis je vais rajouter au passage que CFM s'associe à Confluence pour cette manifestation autour d'Albert Camus. Et il y aura beaucoup de lectures de textes de Camus sur notre antenne pendant la durée de la manifestation. Hugues Dedi, le 4.
Le 4 avril à 19h à la librairie La Femme Renard, les libraires recevront Laurent Baccaria et Patrick Saint-Exupéry qui sont l'un et l'autre les fondateurs de la revue 21. La revue 21 est une revue d'actualité très originale, très littéraire et qu'on trouve uniquement en librairie.
C'est une revue de grands reportages, ce qui voilà. Est original.
Daniel Deloche, le 5.
Alors, vendredi 5, à 18h30, à l'Espace des Augustins, il y a une rencontre avec Jean-Yves Guérin qui vient présenter son dictionnaire Camus. Puis il y aura une lecture de l'envers et l'endroit par Maurice Petit.
Le 6 et le 8, Philippe Bernadou.
Le 6 et le 8, c'est la femme renard qui prend la renée sur le, qui prend le, c'est la femme renard qui prend le relais sur les journées Camus. Le 6 à la Mémo à 14h30, une rencontre avec Virgile Tanase qui est le dernier biographe de Camus, ça existe en folio. Et c'est suivi d'une lecture de L'étranger, toujours par Maurice Petit. Le 8 avril à 18h30, c'est à la femme renard. Une rencontre avec Claude Sicard qui a établi l'édition de la correspondance Albert Camus Roger Martin Dugard qui paraîtra à l'automne chez Gallimard.
La petite parenthèse, Virgile Tanase sera sur CFM vendredi 5 à 17h pour présenter justement cette venue. Le 18 avril, on fait un bond dans le temps, Hugues.
Le jeudi 18 avril à 18h30 à la Mémo à Montauban, les libraires montalbanais ont le plaisir de vous inviter à prendre l'air libre et écouter les lectures d'une sélection de textes issus d'un jeu d'écriture que nous avions lancé l'année dernière. Des textes autour des premières lectures, de l'émoi provoqué par la lecture. Donc c'est le 18 à 19h30 à la Mémo.
Le 26 et 27, c'est la fête des librairies indépendantes, Daniel.
Oui, c'est une fête nationale et presque internationale qui s'appelle Un livre, une rose et qui propose de mettre en avant nos métiers si utiles et pourtant en perdition. Et nous avons choisi, nous, donc, d'inviter les éditions La Brochure, édition tarn-et-garonnaise, autour de Jean-Paul Damadio, qui est lui-même donc un éditeur fort indépendant et qui en profitera à la fois pour présenter sa démarche, bien sûr, les ouvrages disponibles qui ont été publiés et notamment les dernières parutions. Il animera le stand le vendredi à partir de 16h et le samedi à partir de 10h30. Le vendredi, il présentera Jaurès en 1906, dédicace à partir de 16h et débat en suivant à 18h. Le samedi, il y aura le matin de 11 à 12 une dédicace de Maximilien Rénès Duplex, poète, et de Jean-Paul Damadio. Et l'après-midi, à partir de 14h30, de Bernard Ouarnès, qui vient présenter un livre sur Castelsarrasin, Jean-Pierre Frutos et François Schlachli, excusez-moi, qui eux viennent présenter deux autres ouvrages. Et il y aura débat entre ces deux auteurs, animé par Jean-Paul Damadio, sur le sujet très intéressant et très d'actualité en ce moment, qui est École, bien commun.
On arrive au terme de cette émission et je vous propose de faire un petit tour de table pour nous représenter les ouvrages du jour. Hugues Dedis.
Alors, je vous ai parlé de Bâche à Boche de Charlotte Ellig aux éditions Actes Sud Junior et Hennig Marcheur de Aubin Russell chez Monsieur Toussaint L'Ouverture.
Daniel.
Moi, je vous ai parlé de Geronimo Amalodo de Guy Goffet et du Flûtiste Invisible de Philippe Labro, tous les deux publiés chez Gallimard.
Philippe.
L'auteur du mois était Eduardo Mendoza à l'occasion de la parution de son dernier livre La Grande Embrouille au Seuil. Et nous avons parlé aussi de Sayonara Gangster de Genichiro Takahashi aux éditions Books.
Eh bien, je vous remercie d'avoir participé à cette édition du mois d'avril des Voix de l'Alma et je vous donne rendez-vous au mois de mai.
Au mois prochain.
Au mois prochain. Salut.